Mystique, le 24 décembre 1993, à Rimont, par le Père Marie-Dominique Philippe, 10e conférence.
Bon, veut-on établir une hiérarchie parmi les différents travaux humains, oui, par rapport aux finalités de l'homme. Le travail est en vue de la finalité de l'homme. Donc c'est la finalité de l'homme. Si on fait ça correctement, c'est pas du tout ce qui se passe. La finalité profonde de l'homme, c'est l'adoration et la contemplation. Ça, philosophiquement, je peux le dire. C'est pas une question confessionnelle. L'homme est fait pour adorer Dieu et le contempler. Ça, c'est la première finalité. Évidemment, le point de vue économique ne joue pas tellement, mais au moins qu'on le respecte. Deuxièmement, l'amitié et la famille. Je crois qu'immédiatement après, favoriser la famille. Permettre à la famille d'exister. C'est la seconde finalité. Économiquement avant, le point de vue économique était lié à la famille pour permettre à la famille d'exister. Pour que le genre humain puisse continuer de vivre et survivre. Dit ce matin, c'est passé de la famille à la nation et de la nation internationale. Par le point de vue de l'idéologie, le travail ne demande pas d'être international en lui-même. Il est trop concret. Il est lié immédiatement à la vie de l'homme et à la famille. Mais les idéologies le mettent international. Pourquoi ? Parce que le but du travail n'est plus de faire une œuvre utile à l'homme. Le but du travail est devenu gagner de l'argent. Et il y a une corruption à l'intérieur même de la finalité du travail. Cette corruption s'est faite progressivement. Alors à partir de ce moment-là, vous comprenez, la hiérarchie devient tout simplement là où on gagne le plus. Donc la mesure revient exactement à ce que Jésus dit. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois, le Christ et Mammon, le Christ et l'argent. Or l'humanité s'est orientée vers l'argent. Ça ne veut pas dire qu'on doit quitter cette humanité, hein, vous voyez bien. Mais si on regarde concrètement, c'est ce qui se passe. Des gens très compétents m'ont dit qu'on avait fait des calculs extrêmement poussés pour savoir s'il fallait détruire le tiers-monde ou le laisser. Tout simplement pour que le progrès puisse continuer davantage. Le tiers-monde est un poids. Pas pour moi, hein, dans cette perspective-là, vous comprenez bien. Il faut le détruire. Quelqu'un de très compétent, je ne peux pas le nommer, c'est pas la peine, parce qu'il m'a dit ça secrètement. Il n'a pas interdit de dire que ça existait. Il a vu, lui. Il m'a dit, c'est très impressionnant de voir ça. En très haut lieu. C'est évident. Les finalités aujourd'hui ne sont plus humaines. C'est ce que dit l'Apocalypse, symboliquement, l'Égypte et Sodome et Gomorre. Il ne faut jamais oublier ça, ça m'impressionne beaucoup quand je vois ça dans l'Apocalypse. C'est Gog et Magog. Alors, je continue. Si oui, celle-ci se fonderait d'abord sur la qualité. quantité plus ou moins grande de la matière sur laquelle l'homme travaille et coopère, ou plutôt sur la qualité des facultés présentées dans ce travail. Intelligence, volonté, faculté, soin. Vous voyez ? Donc, la hiérarchie, les finalités de l'homme, ensuite les qualités de chacun, et en troisième lieu, la matière. Je dis ça très rapidement, hein. Je m'excuse, parce que je voudrais quand même continuer un peu ce que nous disons, mais j'aime bien de répondre aux questions. Finalité de l'activité artistique. Est-ce que l'œuvre... Oui, ça on va le voir. Je termine ce matin. Alors par rapport au mot, on l'a vu. Responsabilité morale de l'artiste. L'artiste n'a-t-il pas une responsabilité vis-à-vis de ceux qui voient ses œuvres? Ou peut-il tout dire, tout faire, sous prétexte qu'il en a l'inspiration? C'est bien évident qu'il ne va pas tout faire, il va faire n'importe quoi. C'est toujours la même chose. On est solidaire dans la race humaine. Il y a une philanthropie, un amour de l'homme pour l'homme. Et on doit respecter les finalités profondes de l'homme. De sorte que cette fameuse question, vous voyez, qui a existé depuis tout le temps, les rivalités entre la morale et l'art. Je crois que c'est mal pris quand on prend l'art est-il moral? Non, l'art n'est pas moral, il est autre chose que la morale. Il ne faut pas ramener la morale à l'art. Il ne faut pas ramener l'art à la morale. On aurait un art de Saint-Sulpice. On aurait, si on ramène l'art à la morale, on a le théâtre de Gabriel Marcel, qui est ennuyeux comme tout. Petite querelle entre Gabriel Marcel et Sartre. Vous voyez les rivalités terribles. Sartre invité au Japon, Gabriel Marcel dit, alors son théâtre sera appliqué au Japon. Alors il faut que je vous invite au Japon pour venir vite après Gabriel Marcel, vite après Sartre, pour retrouver autre chose. Alors, quand le théâtre de Sartre était joué et que le théâtre de Gabriel Marcel n'était pas joué, pauvre Gabriel Marcel. Lisez pour vous amuser une fois le théâtre de Gabriel Marcel. Il y a même une musique philosophique de Gabriel Marcel. Il y avait un petit groupe à Fribourg où on jouait ce petit air de Gabriel Marcel chaque fois qu'on se réunissait pour du philosophique. C'était impossible. La liturgie philosophique, c'est impossible. Gabriel Marcel le faisait. Très brave homme, Gabriel Marcel. C'était un très brave homme. Mais, vous voyez, ne pas distinguer l'art et la morale, ça ne va pas du tout. Ce sont nos deux grandes activités humaines qui forment l'homme. Alors, il faut un ordre entre les deux. La morale va plus loin, ça touche notre finalité. Mais il faut respecter l'art qui forme notre culture, notre milieu. Un peuple qui n'a pas d'art n'a pas de culture. Et un peuple qui n'a pas de finalité morale va à la destruction. Alors il faut respecter les deux. On peut dire qu'il y a des limites à l'activité artistique dans la mesure où l'activité artistique va contre l'homme et les finalités de l'homme. Pas la morale, mais les finalités de l'homme. S'il va contre les finalités de l'homme, il détruit l'homme. Et en détruisant l'homme, il se détruit. Vous pouvez vous poser la question, l'homme est-il pour l'art ou l'art est-il pour l'homme? Si l'art est pour l'homme, il faut nécessairement que l'art respecte les grandes finalités de l'homme. Et soit là au service de ses finalités. Au autrement, il se détruit lui-même. Il détruit la branche sur laquelle il s'appuie. Alors, quelques questions sur le mot. Je vois que ça inquiète, je comprends. Mais avant, je vais tout de suite revenir à ce que je vous disais hier, parce que je crois ça important. On peut hiérarchiser les œuvres. Ce serait un très beau travail, ça. Alors, en très gros, l'œuvre est où ? L'outil. Donc, de l'ordre de l'utile. Il y a toute une série d'œuvres qui sont en vue de l'utile. L'utile est une catégorie particulière du bien. Le bien utile. C'est-à-dire, c'est un moyen. Quand vous construisez des outils, c'est utile. Et ça a commencé comme ça. À quel moment l'humanité a-t-il construit la route ? La brouette. Regardez les routes du TGV. Au point de départ, on n'avait pas pensé que sa route, ça tournerait si vite. Et enfin, c'est la même route, c'est la route, toujours la route. Alors, on fait plus ou moins parfait si on regarde les nouveaux métros à Paris, plus les mêmes, c'est toujours la roue. C'est très intéressant de regarder les premiers outils qu'on a fait. Tout à fait les premiers outils. Les couteaux, l'arc, les armes. Cherchez ça, c'est amusant, les outils. Parce que les outils, hein, je mets les armes de guerre, c'est encore des outils. Des outils dangereux, mais c'est des outils. Une bombe, c'est un outil. On peut pas la mettre dans sa poche. Dangereux. Ça a été dans la cathédrale. Depuis, il n'y a pas longtemps. Deux jeunes gens arrivant à vers la fin de la matinée. Pour prier, voit un sac dans le fond. Ils vont regarder. Qu'est-ce qu'ils voient ? Deux bombes. Alors, comme des jeunes ardents et fervents, il vaut mieux que ces bombes soient dans leurs mains que dans le fond de la cathédrale, ils les prennent. Avec toute la foi généreuse qu'ils aient, puis les vont porter à la police. La police du Puy téléphone à la police de Lyon. La police de Lyon, dardard. En hélicoptère, viens. Ça prouve qu'ils prennent la chose au sérieux. Ces bombes devaient éclater à 2h30 d'après-midi dans la cathédrale du Puy. Des bombes très sophistiquées, tout à fait modernes. Et celui qui venait de Lyon pour les inspecter a dit tout de suite, devant tous les autres, nous sommes en face d'un miracle. Dites-vous bien ça. Ces bombes devaient éclater dans les mains de ceux qui les avaient prises. Tout l'appareil était fait pour ça. Ça n'a pas éclaté. On n'explique pas. Et ces bombes devaient éclater là. L'évêque du Puy me racontant ça, donc c'est pas passé par 36 routes. Il dit, j'ai chanté mon magnificat quand il m'a dit ça, parce que le miracle de la Vierge Marie, auprès de ces jeunes généreux, voulant sauver la cathédrale, la Vierge Marie était là, pour empêcher. Hein ? Bon, les bombes, c'est des outils dangereux. Et on va très loin dans ces outils. Un avion, c'est un outil. Tout ce qu'il y a. Il faudrait voir, hein, combien l'industrie de l'outil de l'ordre de l'utilité de la défense. C'est de l'ordre de l'utilité de se défendre. Quand vous êtes en face de Jean Mauvais. Donc l'œuvre, qu'est-il ? L'œuvre, l'aliment, donc la nourriture. La nourriture est encore plus essentielle. C'est de l'ordre aussi de l'utile, l'aliment, c'est relatif à celui qui va, mais c'est nécessaire. L'usine des petits pois, c'est nécessaire. Puis tout est produit alimentaire. Évidemment, là où ça marche le mieux, produits alimentaires. Il faut être astucieux pour arriver à faire des conserves de toute espèce de choses. La liste des conserves. La nourriture. Et alors, après, l'œuvre agréable. Le béni vivere. Les anciens, du point de vue de la culture, quand on traverse un petit bled, on voit la statue d'un général ou de Combes. Toujours en traversant feu, je ne savais pas que Combes était né là. Le petit père Combes est là, à Feur, tout près d'ici. C'est sans doute pour ça qu'on est ici, pour aller le saluer et prier pour lui quand on passe devant lui. Oui, ça fait partie de la culture. La statue de Combes, c'est évident. Ça fait partie, bon, toutes les... C'est plus ou moins beau. Après une guerre, on met des monuments au bord. Les cathédrales qu'on construit, déjà plus nobles, les cathédrales qu'on construit, mais l'hôtel de ville, tout, les peintures, les œuvres qui viennent embellir. Alors c'est là où se pose la question de la beauté. Le beau fait partie du béni vivere, éduquer la sensibilité des gens. Pour leur permettre de ne pas être des bêtes sauvages. S'il n'y a plus de culture, on devient une bête sauvage. Très vite. Très vite. Ça dégringole extrêmement vite. On se venge. Ben, la vieille idée des anciens, que l'art est une catharsis. L'art apaise les passions, éduque les passions. Catharsis. Alors nous disons pas du tout, oh, c'est secondaire. C'est essentiel la culture. C'est essentiel. Et quand on est en face d'une culture qui est purement dans la laïcisation pure, la culture qu'on voyait à partir de la praxis, à partir du communisme. C'est une culture qui abaisse à la place élevée. Normalement, la culture doit être dans une certaine chaleur humaine qui permet à l'homme d'avoir la tête qui dépasse et d'être de plus en plus lui-même. Il y a un pain de culture, ou pain de culture, très significatif. Il y a une chaleur humaine, comme on va dire, et autant que possible même qui fait progresser. Et quand la culture tombe vers le point de vue glacial, ça nous fait descendre. Ça éveille les passions, ça éveille les instincts. Regardez les affiches de Paris. Les affiches de Paris donnent le niveau culturel actuel. C'est pas fameux. Pas fameux. Mais il faudrait une fois, je ne sais pas, moi, je n'ai pas le temps de le faire, moi. Mais ce serait très intéressant. Le niveau. Parce que les affiches, c'est très significatif. Il faut voir les gens qui font les affiches. Très significatif. Ils ont un ton de saisir ce qu'on peut éveiller. Ce n'est pas encore. Il faut toujours être un peu prophétique pour l'avenir. Et saisir. Or, le prophétisme se fait ouvert le haut, vers le bas. Alors, vous voyez, voilà, la grande classification des soins, des œuvres. Ça, c'est très important, parce que ça permet justement de donner la classification. Alors, laissons de côté, si vous voulez, parce que nous ne sommes pas au niveau industriel. Ce serait intéressant, point de vue industriel, hein, c'est ici. Ça, c'est sûr. L'armement, les moyens, l'agriculture, tout s'industrialise aujourd'hui. Et donc les outils deviennent de plus en plus importants. Regardez au début du siècle, les chevaux existaient encore dans les campagnes. Aujourd'hui, tout s'industrialise. C'est très très curieux ce phénomène. Qu'est-ce qui commande ça? L'efficacité. À la place d'avoir 30 ouvriers agricoles, qu'on a besoin par moment, et puis par moment on n'a plus besoin, on a tout simplement des machines qui coûtent très cher, un investissement énorme, mais qui permet d'être... Alors, ça permet la socialisation, étant donné qu'il faut ça. Mais tout va dans un sens. Ce qui est intéressant à voir, que de fait, plus l'outil se perfectionne, plus un investissement énorme, plus la socialisation. Et au bout d'un certain temps, le petit propriétaire ou l'usine familiale disparaîtra. Forcément. Alors on est en face, on apporte de l'eau au moulin d'une économie internationale. Et ça, c'est très commandé par l'outil. Très, très commandé. Alors, à tous les niveaux, hein, l'outil efficace, l'outil qui défend, la défense des armes, et ainsi de suite, toutes les machines. Alors, l'aliment, c'est aussi une chose. Alors, avec l'aliment, vous mettez le vêtement. Ah. On a inventé le vêtement. Et il y a les modes pour renouveler. Alors voyez les modes, c'est entre les deux les modes. Ça fait le lien entre le vêtement et l'agréable. Le vêtement folklorique, hein. Renouveau comme ça. Et les modes qui renaissent tous les 10 ans. Même carton qu'on modifie un peu. Je crois que si on réfléchit, on a là quelque chose d'intéressant. Je ne vais pas aller plus loin. C'est simplement pour vous montrer la complexité du travail. Et en gros, il y a ces 3 aspects. Ce qui nous intéresse peut-être plus ici, c'est le point de vue de l'œuvre d'art. Alors, si vous voulez, nous allons pousser maintenant le point de vue de l'œuvre d'art. C'est l'œuvre. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'œuvre par excellence? Ou est-ce que l'œuvre par excellence, c'est le pain? C'est le pain. Et c'est le vin. Alors le pain et le vin, c'est pas de l'agréable. Oh oui, c'est bien. On peut faire du pain de très grande qualité. Mais c'est simplement la qualité, n'est-ce pas? Tant que ça ne tombe pas dans la coopération, sur le vin de la coopération, tout le monde sait que c'est un vin médiocre. Ça, c'est le niveau. C'est-à-dire que le vrai vin du propriétaire, ah, c'est autre chose. C'est très intéressant de regarder ça au point de vue philosophique, vous voyez. Parce que vous voyez tout de suite les niveaux dans lesquels on se place. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Voir ça, parce que c'est des petits signes, ce sont des signes. La philosophie sert à ça. on lit le niveau d'une culture comme ça. Et on tombe dans un point de vue où les propagandes deviennent quelque chose de capital. Vous savez, Louis-Hubert Grasset disait il y a quelques années, peut-être il y a 20 ans, il disait, je peux vendre le roman que je veux. Si ce n'est pas complètement absurde. Par la propagande. Parce que les hommes ne jugent plus par eux-mêmes, mais jugent en fonction de la propagande. Et comment ? La propagande, ça met quoi en œuvre ? On n'a pas mis ça ici. C'est tout le point de vue du commerce. Là, c'est la production, le travail. Mais maintenant, il y a un travail numéro 2. Il faut communiquer, il faut le faire vendre. Et c'est très important. C'est presque plus important que l'œuvre. La communication, ces hommes intermédiaires, médiateurs, c'est la médiation. Un éditeur, s'il n'a pas la possibilité de transmettre ce qui est. Alors l'éditeur, où est-ce que vous le mettez, l'éditeur ? L'œuvre agréable, entre deux, il y aurait tout le point de vue de la science. Alors est-ce que vous dites que le livre, c'est de l'ordre utile ? Alors je crois que le livre, il est là. Ordinairement, on ne s'en nourrit pas. Sauf les gosses. Alors, et l'agriculture. Non, je veux dire, l'œuvre agréable, la culture, ça fait partie de la culture, les livres. Ça, c'est sûr. Et le niveau de la culture, tout de suite. Alors, le libraire qui vend. Oui, à côté de ce travail qui produit, il y a un travail qui communique. Et pour Platon, c'était les métèques. Le vrai travail, le vrai citoyen produit. Les autres, ils n'ont qu'à communiquer. C'est très curieux dans Platon. C'est intéressant du reste de voir ça. Parce que ce n'est pas du vrai travail. C'est de la rhétorique. C'est de la rhétorique. Vous savez bien comment un gros dictionnaire qui vient de paraître, n'est-ce pas ? On demande à quelqu'un d'aller faire du porte-à-porte pour le vendre. Tout est pensier, tu m'écoutes ? Donc c'est la rhétorique, là. Alors la rhétorique, c'est tout. La culture. Communication. Conférence à des journalistes que j'ai entendus. J'étais dans un petit coin exprès. En fait, je ne dis pas par qui. Par un homme respectable. Alors, la communication, toutes les possibilités de communication. Alors, la question à la fin. Mais, vous auriez peut-être souligné que les communications ne se font pas la même chose si ce sont communiquer l'évangile ou communiquer les petits pois ou communiquer les sardines ou communiquer les choses immorales, pornographiques. Alors, on retraite de la communication. C'est très curieux, c'est très intéressant. Quelque chose qui est un pur moyen. On en fait quelque chose en soi. Oui, tout ça fausse les perspectives. Alors on met tout en tout. Il n'y a plus de finalité. Bon, alors, traitons de la question du beau. Le beau est-il inhérent à l'œuvre d'art ? Alors tout dépend comment vous définissez le beau. Il y a le bien. Le bien, ici, il y a le beau. Et il y a tous les intermédiaires, beau et bien. Qu'est-ce que c'est que le beau ? très difficile, oui, je dis très difficile à préciser. J'ai fait l'enquête, parce que ça m'intéressait. Dans le second livre sur l'activité artistique, j'ai fait toute une enquête sur le mot. Qu'est-ce que c'est que le mot ? Petite enquête serait facile à faire. Alors, certains définissent le mot de façon purement subjective. Vous savez la définition de saint Thomas, qui est très intéressant. Quod visum placet. Ce qui est vu et qui plaît. Saint Thomas, qui est si réaliste, voit que la question du mot implique toujours un aspect très subjectif. Et le mot, en définitive, s'achève dans la joie de celui qui voit, de celui qui regarde. Quod visum placet. C'est pas la seule définition du mot qui prend. Le mot, c'est l'harmonie, c'est l'ordre, c'est la proportion. Alors vous voyez des mots très différents. Vous avez un mot qui est d'ordre plastique, un mot beaucoup plus d'ordre poétique. Et c'est vrai qu'il y a des musiques qui font plaisir à certains dans la liturgie. Les hommes sont toujours divisés au niveau liturgique. C'est pour ça que mon vieil oncle, le père d'Aulne, me disait, quand tu vas prêcher dans un monastère, surtout ne dis rien de la liturgie. Ne dis pas quelle belle liturgie. Parce que, alors à partir de ce moment-là, la moitié de la communauté sera contre le prédicateur. Et si vous dites, oh, quelle liturgie lamentable, vous avez, on ne peut pas dire ça, du reste, si on vous invite, on ne peut pas dire ça. Vous avez l'autre moitié. Il ne peut pas y avoir d'unanimité absolue. Doctrinalement, oui. Au point de vue de la vérité, mais pas au point de vue de la beauté. À cause de la sensibilité. Le pot implique toujours un élément sensible. Et le pot artistique implique toujours, donc le pot que l'homme est capable de faire, implique toujours un élément sensible, imaginatif. Toujours. L'imagination joue beaucoup. Un élément intellectuel. Toujours. C'est un ingrédient de tout ça, le mot. L'affectivité, la sensibilité, l'imagination, l'intelligence. Et aussi, il peut très bien se faire qu'il y a un élément spirituel, de l'amour spirituel. C'est vrai que c'est très différent, la beauté d'un avion. Un mirage, c'est beau. Est-ce que la beauté de l'avion, ça doit se voir sur le sol ou sur l'air ? Hein ? L'avion, il est fait pour voler. Donc la beauté d'un avion, c'est lorsque je le vois voler. Le Concorde, est-il beau ? Ou est-ce que c'est un signe ? Il y a toujours la tête en l'air et vous regardez avec mépris. Très connu la beauté des instruments. Et vous voyez, et ça change. Quand vous voyez des cruches antiques, ce sont des cruches antiques qui étaient faites pour l'utilité. Vous les retrouvez 2000 ans après, vous les mettez dans un musée. La cruche devient quelque chose de rarissime, comme c'est beau. Regardez cette courbe, oh là là. On n'a jamais vu ça. Dans l'extase. Vous voyez, c'est curieux, ça change selon le milieu imaginatif. C'est ce que Malraux a très bien saisi quand il a compris ce que c'était que le musée. L'invention d'un musée, c'est quelque chose d'assez récent. Vous voyez, c'est analogue à la critique. Le musée, c'est des conserves. C'est des conserves de beauté. C'est très curieux. Alors, est-ce que le musée fait partie de la culture? Ou est-ce que le musée favorise une culture qui vieillit? Changer un statut de sel. Parce que la vraie culture, c'est l'œuvre d'art actuelle. Et la culture prend tout ce qui a été fait, le patrimoine. Et le musée, le patrimoine. Mais toutes ces questions-là sont très importantes pour voir la relativité de la question du beau. Cependant, je crois qu'on doit maintenir que l'œuvre belle n'a pas des critères. Il n'y a pas un critère de beauté. Mais ne peut pas être en contradiction avec ce que l'homme porte au plus intime de son intelligence, de son cœur, de sa sensibilité. Je crois qu'il doit toujours y avoir une certaine harmonie, plus ou moins cachée, plus ou moins exprimée, entre l'œuvre et la sensibilité de l'homme, entre l'œuvre et l'imagination. Entre l'œuvre et l'intelligence de l'homme. L'art relève de l'intelligence pratique. Et donc dans toute œuvre d'art, il y aura l'intelligence. Et c'est là où on pourra discerner un art romantique et un art classique. Dans l'art classique, la note de l'intelligence prédomine. C'est pour ça que l'art classique est un art qui proclame l'ordre, la proportion. Mais pas bêtement, hein. Comment ça devient un art académique? C'est la corruption. Ça devient logique. L'intelligence n'est pas logique. Vous comprenez bien, c'est la raison qui est logique. L'art n'est pas logique. C'est faux, un art logique. C'est un art académique. C'est un art qui se finit. Il meurt, le cimetière académique de l'art, le musée. Mais c'est très curieux, ça. Alors ça, c'est vraiment la logique qui prédomine. L'ordre, pour moi, n'est pas un ordre logique. Il y a un ordre d'amour. Il y a un ordre sensible. Il y a un ordre de l'intelligence. Or, l'art favorise la fine pointe de l'intelligence, la finesse. C'est pour ça qu'on oppose l'esprit de géométrie et l'esprit de finesse. Et le véritable art favorise l'esprit de finesse. Et l'intelligence est présente, pas la raison. Dès que la raison est présente, c'est un art qui finit. Et l'art est quelque chose de très très complexe. Alors c'est pour ça qu'on a beaucoup exagéré au XVIIe siècle sur les canons de beauté, sur la beauté objective. Alors il y a une réaction, le romantisme, l'aspect purement subjectif. Dans le romantisme, c'est l'imaginaire qui domine. C'est pour ça qu'on en ajoute, on en ajoute, on en ajoute. Une œuvre romantique n'est jamais finie. Elle est quasi infinie. Parce qu'on peut toujours en ajouter. Tandis que dans l'œuvre classique, non. L'intelligence est nette et précise. Elle a quelque chose de très, très, très net. Dans l'ordre de la détermination. Dans l'ordre de la finesse. Alors vous voyez, comme c'est déjà difficile, alors il peut y avoir un art religieux et il peut y avoir un art chrétien. Il y a tous ces aspects divers. fois l'œuvre et ou une œuvre sacrée. C'est comme ça que je le divise. Je sais bien qu'on peut donner d'autres divisions. Je crois que toute œuvre d'art est sacrée. C'est-à-dire qu'elle transcende le niveau purement actuel de la culture. L'horizon. Une œuvre d'art n'est pas horizontale. Elle transcende. Elle a quelque chose de plus. Toute œuvre est sacrée. Toute œuvre d'art. Une œuvre d'art peut être religieuse. C'est pas la même chose de sacrer le religieux. Et une œuvre d'art peut être chrétienne. Je crois qu'il y a un art chrétien. L'art musulman est religieux. L'art grec est souvent religieux. L'art africain est souvent religieux. Pas toujours, hein, parce qu'il peut y avoir des degrés inférieurs. Et par le fait même, il est sacré. Oui, je crois qu'on peut distinguer le sacré, ce qui est capable de rejoindre l'absolu, sans le nommer. On ne le nomme pas. Mais il y a un fond de camp. Quelque chose qui vous élève. C'est sacré. L'art religieux regarde le Créateur. Donc l'absolu est déterminé. Une détermination. C'est Dieu. Et l'art chrétien, c'est le Christ.
philosophie de l'activité artistique, à Rimont, par le père Marie-Dominique Philippe, 11e conférence et dernière.
8 jours, je crois qu'on aurait une montagne de questions. C'est très bien, ça prouve que ça rentre un peu. L'action syndicale est-elle justifiée? Ça, je ne réponds pas, ce serait trop long. Il est évident que la plupart du temps, les syndicats, aujourd'hui, ne regardent absolument pas le bien commun. Or, c'est au nom du bien commun que les syndicats peuvent exister. Ils n'ont pas d'autre raison d'exister que pour le bien commun. C'est-à-dire pas seulement un petit groupe, c'est ça qui est terrible. Vous voyez, la politique devient une politique des partis. Les syndicats sont des syndicats des partis. Donc tout est faussé. La politique doit être une politique pour le pays et pour le bien commun. Donc très bien qu'il y ait des partis. Mais les partis qui sont élus pour le pays et pas pour les partis. Élire un candidat pour le parti, c'est faux. C'est une élection pour le bien du pays. Oui, le boulot qu'on a à rectifier ça, si un jour c'est rectifiable. Je crois qu'il faut avoir des nets et très clairs là-dessus. Le syndicat, c'est pour essayer de rétablir une justice. Là, il pourrait y avoir des injustices à cause du pouvoir. À cause de ceux qui sont les gros. C'est uniquement ça. Le jour où le syndicat devient un organe d'un parti politique, tout est faussé. Et où le parti politique, à la place, devrait, vis-à-vis du bien commun, manœuvre en fonction du parti. Je crois que vous voyez suffisamment clair là-dessus. Évidemment, les syndicats suisses sont plus faciles à redresser. Parce qu'en Suisse, il y a encore un certain sens politique. Comparativement à la France, où hélas, le sens politique, au sens propre, il y a le sens des partis en France. Terriblement passionné. Il suffit d'écouter le soir, je ne le fais pas habituellement, mais de temps en temps, ça m'est arrivé. D'écouter le soir, au moment des informations politiques, les injures des gens par rapport à ça. Mais c'est pire que tout ce qu'on est, quoi. C'est comme des gosses de 15 ans. Passionnés. Mais qu'est-ce que c'est? Et l'État est gouverné par ces gens-là. C'est pas tous sont comme ça, mais vous savez ce que disait Cicéron. Chaque sénateur est intelligent, mais le Sénat est bête. Il ne faut jamais oublier ça. C'est une phrase mémorable de Cicéron. Il faut s'en servir de temps en temps. Et c'est très vrai. Vous voyez, même dans des conseils de faculté, il y a des choses importantes, de faculté, de théologie ou de philosophie. Pas ici, je parle de Fribourg. Qui a mis des choses importantes. On voyait chaque professeur avant qui disait son avis. Et on voyait à peu près comment ça allait tourner. Eh bien, au moment même, on ne pouvait jamais savoir comment ça allait tourner. Ce qui prouve que les personnalités disparaissent devant la communauté. Cette petite communauté d'un conseil de faculté. Très curieuse. C'est un phénomène social extrêmement intéressant. Si l'inspiration provient de l'expérience fondamentalement, donc provient fondamentalement, est-elle finalement copiage ou reste-t-il de l'invention pure? Justement, Elle provenait directement d'expérience. Ce serait tout simplement le fruit de l'expérience. Si elle provient fondamentalement de l'expérience, c'est tout à fait différent. Parce que l'imagination en nous est la première faculté synthétique. C'est l'imagination qui fait des synthèses, des rapports nouveaux. Or, l'inspiration joue, je vous l'ai dit, sur des relations nouvelles qui proviennent dont la source est l'imagination. La source première, au point de vue sensible. Donc, formellement, elle provient de la coopération de l'intelligence et de l'imagination. De l'intellect, agent, et de l'imagination. Mais fondamentalement, elle provient de l'expérience. Ça, c'est très important, parce que ça fait comprendre comment les inspirations sont très diverses de peintres qui ont vécu en Provence, qui ont vécu en Afrique, je parle de Gauguin, par exemple, ou qui ont vécu aux États-Unis. On voit très bien le fond de l'inspiration, qui est l'expérience. Faut-il chercher à remplacer le travail qui s'est dégénéré comme le travail à la chaîne? Ou peut-on quand même confier à l'homme un travail qui ne soit plus humain? Je crois qu'un travail qui n'est plus humain n'est plus un travail. C'est une corvée. C'est vraiment une corvée. C'est un labeur. C'est plus du travail. On confie ça à des esclaves. À des bêtes de somme. Plus à des hommes. C'est plus du travail. Et donc il faut repenser le problème à la racine pour que le travail redienne humain. Ne fait pas à partir d'un travail non humain qui abrutit l'homme vouloir rectifier quelque chose. Le fruit est gâté à la racine. C'est plus un travail. C'est exactement comme on me disait tout à l'heure à propos de l'art. Quand l'art n'est plus humain, est anti-humain, il n'est pas sacré, c'est même plus de l'art. L'art doit être humain. Il doit être sacré, et peut-être religieux, et peut-être chrétien. Mais s'il n'est plus humain, il n'est plus de l'art. N'allez pas dire que, vous savez, ce qu'on a fait à un moment donné, attacher à la queue d'une vache un pinceau, et vous dire, voilà, voyez, chez eux, mais non. C'est la mouche qui a piqué la vache, et qui est l'instinct et l'inspiration. C'est plus de l'art. Et on le courage de dire c'est plus de l'art. C'est de la gaminerie. Il faut bien qu'on s'amuse comme ça. On peut s'amuser avec beaucoup de choses. C'est plus de l'art. L'art est pensé. Il y a toujours quelque chose de l'intelligence. S'il n'y a plus rien d'intelligence, c'est plus de l'art. C'est le hasard. Le hasard n'est pas l'art. Mais il peut y avoir un art démoniaque. Alors qu'il soit contre l'homme. Si les voies de l'art sont déterminées, où se situe la liberté de l'artiste? Mais d'être un artiste. Je vais être un sculpteur, j'en suis libre. Mais quand j'entre dans ce que représente l'art de la sculpture, eh bien, il y a des voies déterminées qui s'imposent. Le sculpteur le dira de même. Je ne pouvais pas faire autrement. C'est Claudel, par exemple, qui, à Fribourg, quand il venait de temps en temps, parce qu'il aimait beaucoup la vie journée, le théologien de Fribourg, pour Claudel, c'était la vie. Ce qui était vrai, du reste. Alors, il venait de temps en temps. Alors, voilà, on a eu une conférence de Claudel dans l'intimité. Alors que Dana Beaujour a dit « Je n'ai subi aucune influence. » Mais c'est une bêtise, hein, de dire ça. Ça prouve qu'il a vécu, je sais pas moi, hein, sous une cloche. « Je n'ai subi aucune influence. » Claudel a subi l'influence de l'expérience qu'il a eue, du milieu dans lequel il a vécu. Oui, c'était le mieux quand j'ai parlé d'inspiration à Claudel. Je voulais que Claudel me parle de l'inspiration. Alors, il m'a répondu, mais textuellement, il était dans son hôtel, avenue Hoche à Paris. J'étais avec le Père Médieu, qui l'aimait beaucoup. Le Père Médieu m'a dit, je vais chez Claudel, ça vous intéresse d'y aller? J'avais, à ce moment-là, 17 ans, 16 ans, ça m'intéressait d'écouter Claudel. D'être complètement dans la déception totale sur Claudel. Ça dégonflait les baudruches. Vas-y, vas-y. Tiki Smile. Oh, oh, c'est très simple, quoi. C'est très simple en inspiration. J'ouvre le robinet. J'ouvre le robinet une heure par jour. Et je le ferme. Et je ne relis jamais ce que j'ai écrit la veille. Hein, contre Boileau, ça. Et je rouvre une heure. Après, on va dire, blaguer, c'est évident. Il méditait toute la journée. Alors j'ouvre le robinet. Quand la tension était suffisamment forte, il ne voulait pas dire ce que c'était, parce qu'il n'y avait pas réfléchi. Des muses. Des muses. Je comprends très bien qu'un artiste n'aime pas parler d'inspiration. Il y a des artistes qui disent que l'inspiration n'existe pas. Parce qu'ils s'imaginent l'inspiration comme quelque chose qui dégringole du ciel, vous voyez. Comme nous, quelquefois, l'inspiration des prophètes, on imagine un peu comme ça. J'aurais aimé que Samson dise ce que c'est que l'inspiration. Quand Samson était poussé par l'esprit, et qu'il prenait tous ces petits renards, et qu'il a voilà, que des renards, et qu'il mettait des petites torches de feu, venez, pauvres renards, ils ont compris ce que c'était que l'inspiration à ce moment-là. On voit très bien ce que c'est. Oui, c'est tellement varié ce que ça veut dire. On sort de l'attitude habituelle et on entre dans quelque chose qui est profond. On sent bien ce que c'est que l'inspiration. En état de grâce, comme disent beaucoup de poètes. De quelle manière le travail devrait être rétribué? Alors ça, c'est encore une autre. Alors ça, c'est plus du tout de la philosophie, c'est de l'économie. Le travail, il est normal qu'il soit rétribué, mais on rétribue non pas le travail, mais l'homme travaillant. C'est pas le travail qu'on rétribue, c'est l'homme travaillant. Et alors on le contribue, bon, ça on peut. Cet homme a passé toute sa journée pour vous, il a travaillé. Mais alors qu'on ramène uniquement à l'efficacité du travail, on oublie l'homme. Et c'est plus juste. Ah, c'est très complexe, parce que ça touche directement l'homme. Alors, il y a encore quelques petites questions à côté de tout à l'heure. On va aller vite. On va se remettre sur le beau, ça va vous intéresser spécialement. Le beau. Est-il inhérent à l'œuvre d'art? Alors, j'espère que vous avez expliqué. On ne fait pas une œuvre belle, on fait une œuvre inspirée. Ça, c'est très très important. Mais la beauté ne spécifie pas l'inspiration. L'inspiration, c'est faire une œuvre intéressante, qui peut plaire, et donc qu'il soit belle. Mais c'est pas la beauté qu'on cherche, on ne crée pas la beauté. Institut de beauté, on ne voit très bien ce que c'est. Mais... Alors l'atelier d'un artiste n'est pas un institut de beauté. D'autres choses. On fait une œuvre. Une œuvre qui jaillit d'artiste, qui vient de lui, qui l'a travaillé, qui le travaille, et qui travaille tout le temps. Alors cette œuvre est intéressante. Alors ce que diront les artistes, ah tiens, c'est intéressant ça. C'est très curieux d'écouter les artistes regarder leur œuvre. Ah c'est intéressant ça. J'aurais pas cru s'arrêter comme ça. Il y a toujours quelque chose d'original, même pour l'artiste dans l'œuvre, à cause du lien avec la matière. Et Rouault, brûlant 300 de ses tableaux, toi, il me l'a dit. Il a brûlé 300 de ses tableaux parce qu'il ne correspondait plus à ce qu'il portait en lui à ce moment-là. On aurait pu lui dire, mais écoutez-moi, ça m'intéresse. Bon, il m'aurait donné ses 300 tableaux, ça m'aurait intéressé. Non seulement pour la fortune que ça représentait, mais aussi parce que c'était du Rouault et que c'était toujours intelligent. À l'intelligence de Rouault. L'intelligence de ce petit bonhomme, vous voyez, normand, qui allait à la messe le dimanche, authentique, hein, allait à la messe, mais c'était en 1928-29, allait à la messe le dimanche pour trouver quelqu'un avec qui il pourrait se fiancer et épouser. Parce que, disait-il, il me l'a raconté, disait-il, il n'y a qu'à la messe qu'on trouve des jeunes filles bien. Alors pour être sûr qu'elle était bien, on allait à la messe. Et là pendant toute la messe, me disait-il, je regardais. Je regardais à droite et à gauche. Puis il y en avait une qui m'intéressait. Ah oui, celle-là, oui. Elle priait, celle-là. Les autres ne m'intéressaient pas, elle ne priait pas. Celle-là, elle priait. Ça m'intéressait. Je voyais que régulièrement, elle allait tous les dimanches à la messe. Alors comment lui dire qu'on l'aimait? C'est un problème ça. Comment déclarer un bon petit paysan, un bon petit fermier normand, comment déclarer qu'on l'aimait? À chercher. Parce qu'il parle beaucoup mieux que moi. Dire à quelqu'un qu'on l'aime, c'est pas commode. Hein. Alors un beau jour, je voulais quand même lui dire que je l'aime. Je suis sorti en même temps qu'elle. Je l'ai suivi. Heureusement, elle marchait pas trop vite. J'étais tout près d'elle. Alors, c'était plus fort que moi. Je lui donnais un bon coup de poing sur l'épaule. Et là, à ce moment-là, j'ai pu dire, je t'aime. Vous voyez l'inspiration. Voilà, puis là, regardez, il a dit, je t'aime. C'est très joli, ça, moi je trouve ça délicieux. Parce que ça montre comment, vous voyez, quelqu'un qui est rural, qui est près de la nature, qui sait ce que c'est que l'amour. Et l'amour, ça se dit pas, ça se vit. Alors comment le dire? Difficile, difficile. Dire à quelqu'un qu'on l'aime, et qu'on l'aime sérieusement. Donc il faut prendre un geste sérieux. Un geste sérieux, c'est quoi? C'est un coup de poing sur l'épaule, quoi. C'est un engagement. Changer le rythme du baptême en faisant un coup de poing sur l'épaule. Je t'aime, je te choisis pour mon épouse. Bon, alors on fait une œuvre. Et cette œuvre est intéressante. Elle intéresse, elle intrigue. Elle attire le regard. Elle plaît. Elle est belle. Vous voyez, le cheminement avant de déclarer quelque chose est beau. On est pris. On est saisi. Il n'y a que Maritain qui voulut lui faire. Alors il a fait toute une série de choses. Il a fait le beau comme ce qui polarise comme si se paralyse l'inspiration. Je crois pas du tout que c'est vrai. Oui, le mot en soi qui polarise l'inspiration. Le mot transcendantal. Le mot en soi. Mais jamais, quand on a l'inspiration, on est polarisé par le mot. Tout à fait différent. On est polarisé par quelque chose qu'il faut faire. Et qu'on porte en soi et qu'il faut réaliser. C'est beaucoup plus ça. Alors après, il y a le mot qu'on fait. Le mot esthétique. Puis il y a le mot de la nature. Ça, je crois que c'est juste. Il y a le mot de la nature et le mot esthétique. C'est pas le même du tout. Le mot de la nature est maternel. Quand on est fatigué, une belle nature vous repose. Et nature est belle, c'est très curieux. Nature est belle, c'est assez particulier. Le mot mais particulièrement beau que dans l'œuvre d'art et pas dans la nature. C'est dans ce sens-là que le beau fait toujours une espèce de frontière ou d'arête entre l'idéalisme et le réalisme. Et les frontières, le beau. Parce qu'il y a une part idéaliste dans le mot. Heureusement, du reste. Le mot permet de s'évader un peu. Le bien, c'est l'inverse. Il ne fait jamais nous évader. C'est pour ça qu'on est séduit. C'est pour ça que je dirais, moi, que pour définir ce que c'est que le beau, c'est ce qui nous séduit. Alors, il y a des séductions bonnes et des séductions mauvaises. La bonne séduction, c'est celle qui conduit à l'amour, au véritable amour. La séduction mauvaise, c'est celle qui conduit au faux amour. Un amour de l'apparence, alors on est séduit, qui n'est pas un véritable amour. Une œuvre d'art, expression du travail, expression de l'inspiration du travail de l'homme est-elle nécessairement belle? Et une œuvre d'art qui relève d'une inspiration authentique est nécessairement belle. On peut très bien ne pas la goûter, tu vois, autour de nous. Un artiste est toujours un peu un prophète. Donc il est ordinairement un peu devant sa génération. Ce qui explique que certains artistes n'ont absolument pas été appréciés de leur vivant. Surtout des artistes modernes. Absolument pas. Et alors, à leur mort, on les a portés au pinacle. C'est comme pour la sainteté. Comme dit les Blois, tu vois. Cette église où l'on canonise les morts. Parce que les vivants peuvent leur donner une auréole. Parce qu'on ne sait jamais ce qu'ils en feront. Tandis qu'au contraire, les morts, on le sait, ils sont morts. Et c'est un petit peu comme ça, au fond. Du vivant de l'artiste, il y a toujours une auréole qui n'est pas toujours juste. Surtout aujourd'hui, il y a la mafia. C'est les artistes, c'est un peu comme ça. Je vois ça d'un point de vue purement philosophique. Les philosophes aiment de s'envoyer des coups d'encensoir pour que, quand il y aura un article ou un livre recensé, on en fera l'éloge. C'est ça que j'appelle la mafia. On est liés les uns et les autres dans la gloire. Et on se rend la balle. Alors ça enlève toute liberté de jugement. Il reste une œuvre d'art, il ne faut jamais la juger trop vite. Quand vous présentez quelque chose, qu'est-ce que vous en pensez? Rien sur le moment. L'œuvre d'art était quand même l'œuvre d'une réflexion qui a duré. Et vous voulez qu'en un instant, non, on est séduit en un instant, mais on ne peut pas juger d'une œuvre d'art en un instant. N'y a-t-il pas des activités artistiques dans les égales? Le jeu est indispensable, inoubliable, indissoluble du mariage, du travail, pardon. Pour moi, qui suis musicien, avec les règles que connaît la musique, suis-je toujours obligé de me considérer comme un travailleur dès lors que je joue de la musique pour moi, pour mon plaisir? Vous travaillez quand vous jouez. Vous vous donnez à fond. Le travail n'est pas toujours déplaisant. Quand on a un habitus de métaphysique, un habitus d'art, le travail métaphysique vous repose. Vous faites du bien. C'est un plaisir. C'est le vrai travail, ça, je dirais. C'est à ce moment-là que vous travaillez parfaitement. Parce que vous travaillez avec une liberté folle grâce à l'habitus. Oui. Il ne faut pas identifier le travail et le labeur et la tristesse et l'ennui et l'embêtement du travail. Surtout pas. Et quand vous travaillez avec ennui, vous êtes un triste travailleur. Alors quand il y a 30 tristes travailleurs ensemble, c'est un climat de tristesse. S'il y a 20 travailleurs qui sont joyeux de travailler, c'est un climat de joie. C'est comme ça qu'on devrait travailler. C'est comme ça que devraient être nos usines. Un climat de joie. On fait quelque chose d'utile pour la société. On est heureux. Et on fait quelque chose de beau en plus de ça. On est heureux. Être malheureux en travaillant, c'est pas de la nature du travail. C'est parce que vous avez des a priori. Et que vous appartenez à telle ou telle partie. Il faut toujours montrer un mauvais visage. Triste, fatigué. Qui vous ennuie. C'est comme ça qu'on a dégoûté les gens du travail. C'est le signe, vous savez, d'une civilisation qui se dégrade énormément quand il n'y a plus de joie au travail. Ça prouve qu'il n'y a plus de jeunesse. Ce qui est net, c'est quand on met quelqu'un à la retraite, il n'est jamais joyeux. C'est curieux. Alors il devrait être joyeux. Enfin, je pourrais faire ce que je veux. Je travaillerai ce qui me plaît. Je devrais dire ça. Parce que le travail est quelque chose d'indispensable à notre vie. Alors il ne faut pas en faire un dieu. Le travail doit être finalisé par la contemplation, par l'œuvre. Mais par lui-même, le travail doit nous réjouir. Parce qu'il doit nous développer en nous tout un aspect extrêmement profond et vrai. Alors, est-ce que l'œuvre est la finalité de toute activité artistique, ou est-ce que dans certains cas, la finalité se trouve dans l'étape précédente, la réalisation totale de l'œuvre? Quand je parle de la réalisation de l'œuvre, et l'œuvre c'est la même chose, la réalisation de l'œuvre, c'est l'œuvre. Donc, c'est ça qui finalise. Exemple, l'artiste qui trouve son bonheur dans le fait de peindre et se désintéresse de sa peinture une fois peinte. Est-ce qu'on peut... Oui, je vois très bien. Oui, mais alors, il se finalise. dans la réalisation de l'œuvre, mais il ne s'arrête pas à cette œuvre. Ça, c'est autre chose. Il recommence tout le temps. Parce qu'il n'est jamais content de ce qu'il fait. Et qu'il veut toujours aller plus loin. Un artiste qui se délecte dans son œuvre, c'est souvent un petit artiste. On ne doit jamais se contenter dans son œuvre. Jamais. On doit toujours aller plus loin. C'est comme ça qu'on ne vieillit pas. Vous vous vieillissez quand vous considérez que votre œuvre, c'est l'œuvre de votre vie. Je ne pourrais pas aller plus loin. Et mon œuvre devient la mesure même de mon aspiration. Alors là, c'est triste. Ne jamais être content de l'œuvre qu'on a fait ne veut pas dire que l'œuvre ne finalise pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est un dynamisme plus profond que l'œuvre, qui est la source de l'œuvre, l'inspiration. Et qui est ce qui, de fait, me donne cet élan constant. Qu'est-ce qui fait l'élan constant de ma recherche? C'est l'idéa, c'est l'inspiration. Est-ce qu'on peut toujours dire que par le travail, l'homme ne peut pas atteindre ni s'unir à son bien propre, puisqu'il n'accomplit pas d'œuvre spirituelle? Pourtant, l'homme peut accomplir une œuvre spirituelle s'il est instrument de Dieu. Exemple, Marthe Robin. C'est pas un artiste, Marthe Robin. Est-ce que la finalité du travail ne se trouve pas au-delà de l'œuvre dans ce cas? Je suis d'accord. Alors, voyez, c'est quelque chose, tout à l'heure, en finissant le cours, dans ce que je vous ai montré, il faudrait ajouter tout ce que le Moyen-Âge appelait les arts coadjuvans latorum. L'éducation, la médecine, et toutes les médecines possibles sont des arts. C'est pas des sciences. C'est des arts. On en a fait des sciences. Mais la médecine est un art. Parce qu'elle regarde un individu qu'elle veut rétablir dans un état de santé. Parce que la maladie ne spécifie rien. La maladie n'a pas de nature. N'a pas de quidité. Donc c'est pour ça que la médecine est un art. C'est pas un savant, on ne fait pas passer un examen quand on vient pour se faire soigner. On veut être soigné par un artiste qui soigne le corps. L'éducation regarde l'âme. Donc vous voyez, en plus de tout ça, on devrait montrer l'œuvre qui est immédiatement humaine, c'est-à-dire qui favorise le corps de l'homme ou son esprit. Ars coadjuvans naturam, c'est très beau comme expression. L'art qui aide, qui concourt avec la nature, avec le vivant, avec l'homme. L'art de l'éducation, la liturgie, sont des arts qui doivent aider l'homme qui prie, l'homme qui adore. Est-ce que la finalité du travail ne se trouve pas au-delà de l'œuvre? C'est sûr que le travail fait par amour pour Dieu, travailler non pour la nourriture périssable, mais pour le pain que vous donne le Fils de l'homme. L'Eucharistie. Quand vous travaillez pour l'Eucharistie, vous travaillez pour quelque chose qui est au-dessus de toute œuvre humaine. Et alors là, c'est l'intention du travailleur, ce n'est plus le travail. Le travail n'est pas défini par l'Eucharistie. Vous comprenez bien. Il se définit par l'œuvre, mais je peux me servir de l'œuvre comme d'un outil. Je peux me servir de l'œuvre comme d'un tremplin. Et alors à ce moment-là, je me sers de l'œuvre pour quelque chose de plus grand. Et la finalité du travail, alors, n'est plus. La finalité du travail reste l'œuvre. Mais je me sers du travail, je me sers de l'œuvre pour me sanctifier. Alors, un mot, parce qu'il reste combien de temps ?
Un petit quart d'heure,
Père. Un petit quart d'heure, très bien. Est-ce que il y a des questions qui restent pendantes ? J'aime pas les questions pendantes. Après une session, il y a des quantités, c'est évident. Un cours de philosophie n'est pas fait pour supprimer la lumière ou la petite flamme, mais pour souffler dessus pas trop fort, mais pour qu'elle augmente. C'est bon. Un cours de philosophie n'est pas un été noir. Dites-vous bien ça. Un cours de philosophie qui serait un été noir, à perdre, plus aucune question, on a toutes les conclusions. La conclusion peut être un été noir, parce qu'elle vous empêche d'avancer. Un cours de philosophie est fait pour intensifier la recherche. Toujours. Donc il faut ça part un peu dans tous les sens. Donc on a vu la diversité des œuvres, l'inspiration. Il y a un moment très important dans le point de vue philosophique, c'est le point de vue du jugement. Un artiste, un mécanicien, un artisan, quand il a bien travaillé, il aime de s'arrêter, de regarder, de contempler, de juger. Il juge son œuvre en fonction du projet qu'il avait, en fonction de l'idéal. Et il juge l'œuvre pour la rectifier, pour l'intensifier. Il y a un moment très important, ça. Le moment de cette réflexion critique sur l'œuvre. Sur sa propre œuvre. Et ça n'existe que du côté de l'art, vous voyez. Ce que je voudrais faire maintenant, quelques minutes, c'est de regarder parallèlement l'analyse de l'acte humain moral et l'analyse de l'acte du fatuéré. L'acte moral commence par un amour simple, très intense. Puis, il y a une intention de vie. L'amour simple porte sur un bien spirituel, une personne. La personne qui va à la messe, hein, ça porte sur une personne, le petit Normand. Il ne faut pas le quitter, il faut l'aimer. L'intention de vie porte sur la fin. Puis de l'intention de vie, il y a le point de vue du choix. Et entre l'intention de vie et le choix, il y a une phase de conseil, l'information. Le choix porte sur les moyens. Je choisis toujours en fonction de l'homme qui va choisir et en fonction de l'intention. Deux choix très différents. Et le conseil est là pour aider. Oui, en fonction de l'homme. Puis, le choix, il y a ce qu'on a appelé l'imperium. Ceci est très visible dans le commandement. Quand on commande quelqu'un, fais cela. Pour vous donner beaucoup de courage. Quand vous êtes très fatigué le soir, Cependant, vous avez encore un gros travail à faire. Qu'est-ce que vous dites? Allez, vous donnez un coup de cravache. Et réveille-toi, espèce de fainéant. Pourtant, il a travaillé jusqu'à 11h. Mais ça ne veut rien. Il faut qu'il se réveille, le fainéant. Alors, l'Imperium, on se donne à soi-même un coup de cravache. Et l'Imperium porte sur l'exécution. C'est très curieux, hein. C'est l'acte humain, l'Imperium, qui peut venir d'un autre. Ça peut venir de l'autorité. Tandis que tous les actes avant, le conseil aussi peut venir de l'autorité, ou de l'ami. Ou l'Imperium peut venir aussi d'un ami. J'ai un ami qui a une peine énorme de se décider. Je serai là pour lui apprendre à décider. L'acte, voilà. Et puis l'Imperium fait ceci. Et alors, l'usage des facultés. Termine par l'union profonde avec l'ami. Et vous avez donc 1, 2, 3, 4, 3. 7 moments. Ceci, c'est l'agir moral. Et ceux qui veulent lire l'encyclique du pape avec intelligence comprennent que sous-jacent à toute étude du Saint-Père, il y a ça. Entre l'amour simple et l'intention, l'imagination peut empêcher le passage de l'un à l'autre. Même ici, l'imagination de même ici. Il y a donc 1, 2, 3 frontières. Et on peut mettre une quatrième. Qui font les déviations. Et c'est les 4 grandes erreurs que démasque le Saint-Père dans son encyclique. Alors ici, c'est le faturer, le faire. Ça commence par l'expérience. Deuxièmement, l'inspiration. L'inspiration est à l'art ce qu'est l'intention à la morale. Mais vous pouvez mettre des parallèles. L'inspiration. Puis, grâce à l'inspiration, il y a l'idée qui s'est formée. L'idée. Il y a le choix. De la matière. Le choix des outils. Puis, vous avez l'œuvre. Vous avez l'usage de l'œuvre. Entre les deux, il y a le jugement, discernement. Vous jugez. Alors vous voyez les parallélismes que vous pouvez faire. L'intention, la fin, le choix des moyens, on trouve un parallélisme. L'imperium, ah, voyez, l'exécution, c'est très curieux. Dans le facere, vous n'avez pas la face d'imperium. C'est dans ce sens-là qu'on dit les voies déterminées de l'art. À cause de ça, à partir de l'idéa, vous allez de façon continue jusque l'œuvre. Puis après, l'usage de l'œuvre. Ça, c'est une petite conclusion. On voudrait qu'on pourrait recommencer en analysant la durée et le facere et voir ces deux moments en parallèle. Il faut beaucoup y réfléchir, ça. Comme dirait Heidegger, ça donne à penser. Alors on s'arrête, puisqu'il faut s'arrêter. Puisque le travail implique une mesure et implique un temps, il faut s'arrêter. Là, on s'arrête. Là, je vous remercie de votre attention, puisque ça, c'est agréable pour celui qui parle. Et puis, j'espère qu'on continuera.